Europe 1, le meilleur des bienfaits pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour à tous.
Vous êtes dans Bienfait pour vous, votre émission bien-être, tous les jours de 11h à midi. Alors au programme aujourd'hui, on vous a concocté un menu aux petits oignons, les meilleurs moments de l'émission, rien que pour vous. Mélanie, par quoi on démarre ?
Eh bien la première question que l'on va se poser risque de mettre certains parents un peu mal à l'aise, mais on va la poser quand même. A-t-on le droit d'avoir un chouchou parmi ses enfants ? Une vérité qui peut s'avérer impossible à avouer, mais est-il envisageable qu'il y en ait un quand même avec qui la relation est un peu spéciale, un peu plus fluide? A-t-on le droit et comment le gérer? Pour y voir plus clair, la psychologue Isabelle Payot sera avec nous.
Et puis dans Bienfait pour vous aujourd'hui, on va vous proposer aussi un focus sur nos cheveux, comment en prendre soin au quotidien, que vous les ayez raides ou bouclés, fins ou épais, gras ou secs. On va vous donner les meilleurs conseils pour bien les traiter grâce à l'expertise de François Lally. Il est coiffeur maquilleur. Allez, c'est parti pour les meilleurs moments de Bienfait pour vous.
Europe 1. Oh là là, je suis sûre que tous les parents ont réagi direct, hein, de façon un peu épidermique, en se disant non, 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 pas chez nous, on aime tous nos enfants pareil évidemment. Mais si justement, ça n'avait peut-être rien à voir avec l'amour, a-t-on le droit d'avoir simplement un enfant avec qui les rapports sont peut-être plus simples, plus fluides, plus évidents, c'est tout. Et puis si on se met, nous adultes, dans notre situation d'enfant, n'a-t-on jamais pensé un jour que nos parents préféraient notre sœur ou notre frère, ou même vous jubiler là, peut-être comme Julia Vignali, en vous disant bah oui, c'était moi la chouchou.
Non, c'était même pas moi.
Ah non, c'était pas vous. Ah, je croyais. Bref, on va revenir sur tout ça en détail avec notre invité dans un très court instant. Mais d'abord, c'est Clément Lanoux qui va nous livrer le fruit de son enquête menée dans la rue sur ce sujet. Bonjour Clément.
Bonjour tout le monde. Effectivement, le thème était passionnant aujourd'hui. Est-ce que les Français ont un chouchou parmi leurs enfants ? Alors, ceux qui sont évidemment uniques dans la famille, je ne leur pose pas la question. Je me tournais vers une maman qui a deux enfants, qui est Mélanie. Est-ce que Mélanie, vous avez un chouchou ?
Non, évidemment.
Évidemment que non.
Mais c'est hyper tabou, en fait.
Et
ou
c'est
alors,
pour
je peux
ça.
Vous répondre oui, mais je ne vous dirai pas lequel.
C'est presque la réponse que j'ai eue. Alors, j'ai posé la question aux Français. Est-ce que les parents ont un enfant préféré ?
Non. Enfin, moi, j'ai cinq enfants. Je les aime pareil. Mais en fait, on les aime différemment, en fait, oui. On dirait, mes enfants vous diraient que j'ai une préférée, mais pas du tout. On s'adapte à la personnalité de chacun et on peut avoir des attitudes différentes en fonction de la personnalité de l'enfant. Ce qui peut montrer une préférence aux yeux des autres, mais qui n'en est pas une aux yeux des parents, je pense.
C'est assez dingue. On sent que la réponse c'est oui, mais personne n'ose l'assumer. Il y a cette maman qui arrive quand même à enfumer ses enfants.
Non, ils sont chacun mes préférés. Chacun est mon préféré. Chacun, je lui dis, c'est toi mon préféré.
Voilà. Ouais, c'est l'école des fans, quoi.
Ah, tout le monde a 10 sur 10, c'est dingue. Et j'ai demandé à un groupe d'ados si eux voyaient des différences avec leurs frères et sœurs, s'ils pensaient être le chouchou.
Moi, je trouve qu'il y a aussi des différences. Avec mon petit frère, je trouve que ma mère, elle est plus indulgente qu'avec moi, par exemple.
Moi, ouais, parce que je trouve que ma mère, elle est plus différente avec mon frère qu'avec moi.
Ouais, parce que la dernière fois, ils sont allés au Buffalo, ils ont ramené un truc à mon petit frère, et moi, j'ai rien eu, j'ai dû manger un sandwich tout pourri.
C'est pourquoi on croit toujours que le préféré, c'est l'autre.
Mais parce qu'ils l'ont emmené au Buffalo et qu'il a mangé un sandwich tout pourri, tout simplement.
J'aurais pensé la même chose.
Alors, c'est quoi cette injustice, justement ?
Je sais que mon petit frère, c'est le préféré, mais après. C'est-à-dire qu'il fait rien pour ça. C'est-à-dire qu'il est aussi insupportable que moi, ou pour plus, mais c'est le préféré.
C'est le préféré parce que c'est le petit dernier. On reviendra tout à l'heure. Est-ce que le chouchou est toujours le petit dernier ? On verra. Heureusement, il y a des solutions pour être le chouchou.
Pour commencer, c'est bien d'être fille unique parce que les parents, ils ne doivent pas s'occuper d'un autre enfant. Et ça, c'est bien. Et aussi, souvent, les parents, ils ont plus de temps pour toi. Et c'est très agréable, je trouve.
Une chouchoute à vie, quoi.
Chouchoute à vie, être une fille unique. Et si vous n'êtes pas le chouchou, là, si vous nous écoutez, que vous n'êtes pas le chouchou de vos parents, rassurez-vous, voici les techniques, comment le devenir.
Faut pas faire de conneries, genre faut pas mal parler et tout à ses parents, parce que moi j'ai l'habitude à plus mal parler que mon frère, donc faut être un peu plus gentil avec nos parents, genre.
Ouais,
un
moi peu je fagnon. Pense qu'il faut avoir plus d'affection envers ses parents, et je pense qu'en retour, du coup, ils nous en donneront plus.
Je sais pas, faut être gentil avec les parents, ne pas faire de bêtises quand ils sont là.
Être sage,
se tenir à carreau,
mais c'est pas ce qu'on a fait.
Et voilà, ils font des bêtises. C'est très dur de choisir, hein. C'est comme entre vous, je n'ai pas de chouchou, je vous aime toutes les deux.
Oh, c'est gentil ça.
Moi aussi, vous êtes mon préféré. Vous êtes le seul en même temps, Clément Lanoux. Merci pour ce reportage, pour cette petite mise en bouche sur notre premier sujet de ce matin. On va aller les dénicher à présent, les chouchous sans complexe, avec notre invitée. C'est vous, Isabelle Payot. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes psychologue clinicienne et l'auteur du livre « J'élève mon enfant du mieux que je veux » et c'est déjà bien, paru chez Erol.
Que je peux, je crois.
Non, oui, que je peux.
Ah, du mieux que je peux. Oui. Ah, j'ai fait un lapsus.
Oui, c'est bah, joli,
il
d'ailleurs.
Il est mignon, comme... mais il est mignon ce lapsus, d'ailleurs. Oui, c'est ça.
Oui, c'est un peu, je fais ce que je veux, en
voilà,
fait.
Voilà, vous voulez que je m'allonge ou pas ? On en reparlera. Bon, soyons honnêtes, en tout cas, c'est vrai que c'est un sujet tabou, hein, le sujet des chouchous, c'est même le sujet tabou familial par excellence. Comment ça se fait que c'est aussi tabou, le chouchou ?
Parce qu'en fait, on confond deux choses. On confond l'amour qu'on porte à nos enfants. Et il y a une dame qui disait, on les aime pareil. Alors en fait, on aime en quantité d'amour, logiquement, à moins d'être des parents un peu pathologiques, pervers. Mais a priori, si on s'est développé normalement, on aime nos enfants avec la même quantité d'amour. Par contre, on n'a pas la même relation avec eux. Mmh. Donc on a des affinités, des centres d'intérêt, une relation avec laquelle ça va être plus douce peut-être avec certains enfants que d'autres.
Il y en a qui sont plus
fluides, d'autres où ils vont venir nous chercher, nous confronter sur nos failles, etc. Donc c'est cette relation-là qui va donner le ton et les frères et sœurs vont dire « Ouais, mais tu vois, je vois bien que tu le préfères, mais simplement la relation est plus simple. » Et c'est ça qu'on n'assume pas. On n'assume pas de se dire « Avec toi, c'est simple et doux et avec toi, j'en baffe tous les jours.
» C'est difficile en même temps. Il y a certains parents qui, malgré tout, parce que Julia l'a dit, c'est le sujet tabou fraternel par excellence, mais est-ce qu'il y a des parents qui l'assument bonnement et simplement ? Oui, j'ai un préféré. Enfin, j'ai un enfant avec qui j'ai plus d'affinité.
Alors, ça dépend comment on le dit. C'est-à-dire de dire « Effectivement, ma relation, elle est plus simple avec un tel qu'avec l'autre. » Ça peut se dire. Après, d'autres vont dire « C'est mon préféré. » Mais moi, je mets ça à l'épreuve du fait que si un de nos enfants est à l'hôpital, je vous assure que là, il n'y a plus de préféré. Notre cœur de parent, il va être en douleur. Et puis, on ne va pas préférer l'un ou l'autre. On va vraiment aller se plonger dans l'amour qu'on a pour nos enfants. Donc là, ça ne tient pas la route, quoi, ce truc de mon préféré.
Bon, on est d'accord que le mot préféré est à bannir, non, quand même ? Moi, je me mets à la place du gamin. Bah, je préfère ton frère, c'est l'enfer, ça, d'entendre ça.
Oui,
non.
Oui, c'est ça.
Non, on dit j'ai plus de facilité de communication avec ton frère.
Le mot préféré est vraiment à bannir.
Moi, je l'utilise tout le temps, mais en disant t'es mon fils préféré, t'es ma fille préférée.
Ah, bien sûr.
Ça, c'est pour plaisanter, vous voyez. Mais même mes parents faisaient ça, je m'en souviens très bien.
Mais ça, il faut le faire pour plaisanter, parce que nos enfants vont venir nous chercher en disant « Tu vois, je vois bien que tu préfères un tel à moi, etc. » Et donc, dans ces cas-là, il faut rigoler en disant « Bien sûr, effectivement, c'est mon fils aîné préféré, si vous avez deux fils, etc. » Donc, il faut jouer là-dessus. Mais quand on y croit vraiment, c'est que on s'est pas mis au clair avec ses sentiments et avec la relation.
Mais ce jeu, on est d'accord. Enfin, j'ai l'impression que c'est universel. On a tous joué à ça entre guillemets avec nos parents.
Non, ça c'est très
drôle.
Pourquoi
ce besoin de se comparer comme ça et de mettre un podium familial ?
Parce que on a envie d'être l'enfant unique. On a bien entendu cette petite fille qui disait « Ah, c'est trop chouette de pas avoir de frères et sœurs parce que j'ai mes parents pour moi toute seule tout le temps. »
Europe 1, les meilleurs moments de Bienfait pour vous. Julia Vignali. Mélanie Gomez.
De retour dans Bienfait pour vous, votre émission Feel Good Mieux Vivre. Ce matin, on s'intéresse à un sujet tabou, mais alors vraiment très tabou en famille. A-t-on le droit d'avoir un chouchou, un préféré parmi ses enfants ? Elle peut faire mal cette question, surtout quand on se remet dans sa position de frère ou de sœur. On réfléchit à tout ça avec Isabelle Payot. Aujourd'hui, vous êtes psychologue clinicienne. Alors, qui sont le plus souvent les chouchous dans les familles ? Souvent, on dit que c'est le petit dernier, c'est un peu cliché, hein, mais c'est vrai ou pas ? Et comment on peut expliquer ça ?
Non, en fait, celui avec qui la relation elle va être la plus douce, ben, c'est celui qui sera le plus docile et qui va renvoyer quelque chose qui est très narcissisant pour les parents. Ils vont se dire oh, « on est des bons parents, cet enfant est tellement aimable, il dit bonjour à la dame. »
J'ai bien réussi celui-là.
Voilà, hein, il est serviable,
faut
il réussit
faillot,
tout.
En fait.
Alors, pas forcément le faillot, parce qu'il y a des enfants qui ne cherchent pas à être des faillots, mais simplement, ils aiment l'école, ils sont gentils, ils sont drôles. Voilà. Ils aiment les câlins, ils ont pas mal de qualités qui socialement sont très appréciables. Donc celui qui est le préféré entre guillemets, en tout cas qui est valorisant, c'est celui qui va être le plus facile à vivre, plus simple.
Donc c'est
à
pas
vivre.
Forcément le dernier, parce que si le dernier est une tornade et nous épuise, l'élève apparaît beaucoup plus sage.
Il n'y a pas de place. Je pense qu'on peut dire l'aîné, c'est notre préféré parce qu'il était plus docile, mais le petit dernier peut-être qu'il joue aussi là-dessus. Donc il n'y a pas de place vraiment.
Mais pourtant avant c'était l'aîné hein, qui était favorisé. C'est lui qui avait plus de responsabilités. C'est lui qui héritait de tout à la belle époque. Quand est-ce que les choses se sont retournées dans l'histoire ?
En fait, c'est juste cette question qu'on a beaucoup d'attentes sur l'aîné. Il y avait énormément d'attentes sur l'aîné, donc il valait mieux pour lui, s'il voulait que ça se passe bien, qu'il réponde aux attentes. Donc être celui qui allait, récupérer l'office notarial, si c'était des familles de notaires ou autre chose. Donc il y a une responsabilité qui était vraiment ancrée dans les familles, culturellement, au niveau de l'éducation, et la majorité répondait à cette demande, mais pas toujours. Donc aujourd'hui, comme on n'est plus sur ces questions-là du droit de l'aîné, etc., il y a une égalité de droits qui s'est créée dans la fratrie, et du coup, celui qui est le plus docile et le plus sympathique.
Mais regardez, dans la famille royale d'Angleterre, j'étais en train de penser à ça.
Oui.
Il y en a l'aîné, là, le prince William, il est plutôt docile, alors que c'est Harry, hein, le deuxième, qui fiche un peu le bazar. C'est assez.
Il respecte la tradition.
Bah oui, il respecte la tradition. En fait.
Oui, il fout le bazar, mais comme son oncle, le prince Andrew, qui met un peu le bazar aussi actuellement. Donc, mais l'aîné n'est pas le préféré chez les Windsor, par exemple.
C'est vrai.
Charles n'est pas celui que la reine préfère, apparemment.
Bon, on dit souvent fils à maman, fille à papa, est-ce que c'est vrai tout ça ? Est-ce que les parents ont parfois une préférence qui va aller justement pour l'enfant qui sera du sexe opposé ? Ça, c'est un mythe ou ça se vérifie ?
C'est un peu un mythe parce que parfois il y a des familles où il y a que des filles, il y a des familles où il y a que des gars, donc il faudra bien qu'il y ait un fils à papa aussi et un fils à maman. Donc c'est vraiment aussi là en fonction de nos affinités, c'est-à-dire quels sont nos centres d'intérêt ? Il y a des filles qui adorent le foot et qui passent le match avec leur père, enfin, etc. Donc ça dépend aussi vraiment du centre d'intérêt et de la relation qui s'est créée avec le parent. Donc fille à papa ou fils à maman, mais l'inverse est vrai aussi.
Ouais. Bon, du moment que chacun a son chouchou, c'est quand même plus sympa, parce que si tout le monde a le même chouchou, c'est ça commence à être un peu raide. Non,
l'idée, c'est de ne pas faire plus que deux enfants pour qu'on ait chacun.
C'est ça, chacun les siens, c'est ça, exactement.
Sinon, les autres, on les donne.
Est-ce qu'on n'a pas tendance à préférer inconsciemment, vous le dites, hein, celui qui est le plus sage, le plus docile, celui qui fait ses devoirs. Mais vous disiez, c'est pas forcément la même notion qu'être le plus faillot, parce que tout ce qu'on décrit quand même, ça a l'air d'être un petit faillot, quoi.
Non, c'est pas le plus faillot. Il y a des enfants qui sont plus faciles, qui prennent la vie plus facilement. Ils vont pas se construire en se rebellant, en s'opposant, etc. Voilà, il y a des enfants qui sont vraiment cool dans la vie et ils sont comme ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas de bêtises. Hein. Donc celui aussi qu'on préfère, c'est peut-être celui qui nous renvoie parfois une image de nous-mêmes. On se dit, oh là là, il y en a dans mon cabinet, j'en entends qui disent, ah bah oui, mais c'est moi tout craché, comme s'il l'avait fait tout seul, quoi. Donc c'est moi tout craché. Bon, alors c'est pas tout à fait vous, mais ça vous renvoie une image.
Positive.
Positive, oui, ou bien on se dit, ah ah, il se laisse pas faire, il est comme moi. Donc il y a quelque chose qu'on va chercher de nous chez notre enfant, et c'est peut-être ça qu'on aime, finalement.
Dans le chouchou, il y a un truc très narcissique en réalité.
Dans le truc,
en fait,
c'est ça.
Bon, là, on arrive dans la dernière partie de cet entretien et on va se dire la vérité. Est-ce que c'est très grave au final si on a un chouchou, un favori ? Qu'est-ce qu'on peut se dire, nous les parents, pour ne pas trop culpabiliser ?
C'est de tordre le cou à cette culpabilité. On n'a pas des rapports privilégiés avec tout le monde. Donc c'est vrai dans le travail, c'est vrai dans l'amitié et c'est vrai dans la famille. Donc si on comprend que c'est la relation qui va être plus douce, plus aimable, plus sucrée avec l'un qu'avec l'autre, on peut simplement dire ça. On peut dire, tu vois, pour le moment avec ton frère, parce que les relations changent. Hein, donc une relation qui est toute douce quand l'enfant est petit, elle va peut-être changer à l'adolescence et inversement. Donc de dire, avec ton frère, c'est plus simple. C'est pas que je le préfère, mais je préfère discuter avec lui. Je préfère faire des choses avec lui parce que c'est plus facile. Ou avec ta sœur. Bon,
même dit gentiment comme ça, je pense que ça peut être blessant. Comment on fait justement
Je trouve que c'est pas blessant si c'est sincère et authentique. Et de dire, toi, je t'aime infiniment.
Autant.
Oui, alors c'est ça. Il n'y a pas de limite. Hein, c'est illimité, l'amour des parents. Je t'aime infiniment.
Mais
pour le moment, je constate qu'entre toi et moi, c'est difficile. On se dispute, tu t'opposes, moi je ne suis pas contente. Si on est authentique et sincère, tout passe. L'enfant, il a juste besoin de sentir que ses parents l'aiment. Même parfois, la relation n'est pas au top, mais il se sent aimé, il se sait aimé.
Alors Isabelle, on a Ingrid sur Instagram qui demande, est-ce que les enfants ont de leur côté un parent préféré ? Bah oui, parlons-en aussi. C'est un tabou ça dans notre société. Et pourtant, elle dit, hein, Ingrid, moi je dis ouvertement que je préfère ma mère qui s'est juste toujours beaucoup plus préoccupée de nous que mon père, et mon père n'est pas jaloux.
Oui, les enfants, ils vont juger ça à la disponibilité du parent, mais aussi au parent qui dit oui plus facilement. Forcément, celui qui a le mauvais rôle, bad cop, good cop, bah, le bad cop, il ne sera pas aimé parce qu'il va poser des limites. Donc les enfants vont dire bah, je te préfère ou je préfère papa. Ils vont l'utiliser aussi comme une petite arme pour nous piquer par moment. Et là, quand l'enfant dit ça, on dit bah, c'est ok, très bien, mais en tout cas, moi, je t'aime toujours autant et il n'y a pas de souci.
Mais ça peut changer ça aussi quand ils deviennent adultes.
Oui, bien sûr.
Hein, ils embrassent le bad cop après.
Oui, oui. Après, c'est des questions de relations, vraiment. C'est toujours des questions de relations.
Mais vous ne trouvez pas, Isabelle, que aussi le mot chouchou, il est mal choisi
Oui, il faudrait
comment
trouver
appeler,
autre chose.
Ouais.
Ben, j'ai pas trouvé de mot à la place de chouchou, parce que chouchou, ça a une connotation négative. Et
mon
on va
triomphe, mon trophée. Oh non, ça...
On va coller dessus le fait que le chouchou, c'est le faillot, etc. Ouais. Donc, de toute façon, c'est comme un chouchou en classe, hein, dans les classes. On va dire c'est le chouchou de la maîtresse. Il y a une connotation qui est très négative.
On a une question, regardez, de Jean-Marie sur Facebook. Il dit, et ça se retrouve aussi chez les grands-parents et les petits-enfants. Une mamie peut avoir un petit-fils préféré. Et est-ce que dans ce cas-là, c'est moins grave?
Ben, c'est pas très grave si tant est...
Les grand-mères, elles l'affirment plus.
Ah, mais les grand-mères, elles l'affirment à fond.
Ouais,
moi, ma belle-mère
quoi.
Adore ma fille aînée, si elle m'entend. Christiane, je vous salue. Elle adore ma fille aînée parce qu'elles ont une relation très proche. Elles ont fait beaucoup de choses ensemble. Elle était plus jeune au moment où ma fille aînée était petite. Et puis après, les deux autres, elle les a moins suivies.
La grand-mère de mon mari, je m'en souviens très bien, voilà. Elle disait toujours que mon mari était son petit-fils préféré, en garçon en tout cas.
Mais c'est toujours la même histoire. C'est une histoire de quelle relation on a créée ensemble.
Mais c'est moins douloureux, non quand...
c'est moins douloureux. Moi, mes autres enfants s'en fichent totalement que leur grand-mère est
du moment qu'elle a fait le même chèque pour Noël.
Enfin là, elle n'en fait plus, tu vois. D'ailleurs, je passe une annonce, elle n'en fait plus.
Europe 1. Les meilleurs moments de Bienfait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
Pour savoir comment les garder soyeux et en bonne santé un maximum, nos cheveux, on accueille tout de suite un spécialiste du sujet. Bonjour François Lally.
Bonjour.
Vous êtes coiffeur-maquilleur. Alors à la base, hein, pour avoir des cheveux en bonne santé, il faut déjà choisir un bon shampoing. Hein, les laver, ses cheveux, c'est important. Qu'est-ce que je dois choisir justement? Si j'ai des cheveux secs, des cheveux gras, est-ce que finalement, toutes ces allégations qu'on voit sur les shampoings, là, par spécialité, on va dire, ou par type de cheveux, est-ce que ça a une importance véritablement?
Effectivement, ça a une importance puisqu'elles vont répondre à un problème. Quelqu'un qui a les cheveux gras va plus être sur un shampoing à base d'argile qui vont venir un peu absorber le gras du cheveu, réguler également la glande sébacée.
Et puis c'est souvent des shampoings verts, hein, ça, j'ai remarqué.
C'est souvent des shampoings verts parce qu'effectivement, il y a de l'argile dedans. En règle générale, même, ils sont un peu, ça rend le cheveu un peu sec, un peu rêche. Donc, on aime bien mettre quelque chose un peu plus doux derrière pour adoucir. Et puis, quelqu'un qui a les cheveux plus secs, lui, va prendre un shampoing plus gras, donc à base d'huile, huile d'argan ou ce genre d'huile qui sont utilisées dans les shampoings.
Plus hydratant, quoi.
Plus hydratant, exactement.
Mais dites-moi, c'est pas forcément une bonne idée, je crois, quand on a le cheveu gras, de se les laver tous les jours. Je crois que ça ne fait qu'amplifier le problème, c'est vrai, ça ?
Effectivement, oui, ça amplifie puisque la glande sébacée est activée tous les jours un peu plus. Donc elle grossit parce qu'en fait, le cuir chevelu produit du gras pour protéger nos cheveux et notre
cuir. Ça sert à quelque chose en fait, c'est pas juste à nous embêter quoi.
Non, donc il faut se laver. Comme le sébum sur la peau, ça sert à nous protéger. Donc quelqu'un qui en produit en surproduction, c'est que sa peau a un petit souci et demande d'une protection supplémentaire.
Mais quand on a le cheveu gras, faut se les laver tous les combien alors ?
En fait, c'est pas une question de se les laver tous les combien, c'est d'essayer de réguler cette glande sébacée pour qu'elle réduise pas à son minimum, mais à un niveau qui est correct pour pouvoir justement pouvoir espacer ses shampoings. Donc il y a des solutions pour ça, effectivement.
Alors, on va dire qu'on n'est pas le cheveu, on va prendre un cheveu moyen, hein, ni gras ni sec, mais j'ai quelqu'un qui a des cheveux normaux, on va dire. C'est quoi le bon rythme pour se laver les cheveux? On ne sait pas d'ailleurs.
Tous les trois jours, c'est bien.
Tous les
deux, trois jours. Trois jours, c'est bien, c'est ce qu'on conseille. Après, si on tient une fois par semaine, c'est encore mieux puisqu'on laisse la protection naturelle du cheveu. Donc un cheveu qui s'abîme.
Je connais des gens
qui
ne les lavent qu'une fois par semaine et ils ne sont du tout gras. Hein, c'est incroyable.
Il y en a même qui ne les lavent pas du tout et qui n'ont pas les cheveux gras. C'est une tendance, je pense. Que
le no-poo, ça s'appelle.
No-poo,
hein,
tout à fait.
Ah, no-poo, ça veut dire quoi?
Sans
pas de shampoing en anglais. Je n'aime pas ça du tout. Moi, je me les lave tous les jours, d'ailleurs, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Mais d'ailleurs, parfois, quand on va chez le coiffeur, forcément, il ne nous demande pas, il nous les lave deux fois au bac. Comment c'est possible, ça?
Alors, deux fois, pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, on veut être sûr d'éliminer le maximum de résidus. Donc, souvent, chez le coiffeur, c'est comme ça que ça se passe. C'est deux shampoings pour être sûr que les cheveux sont propres. Mais ce qui est vrai dans les deux shampoings, c'est qu'en fait, le premier est lavant et le deuxième est traitant.
Ah oui, d'accord. Et donc, on devrait faire ça à la maison ou pas forcément ?
On devrait le faire si on en a besoin. Si on juge que son cuir chevelu a besoin d'être traité, effectivement, il faut faire deux shampoings.
Est-ce que si on décide d'appliquer un après-shampoing, il faut l'appliquer sur toute la chevelure ou pas ?
Alors non, l'après-shampoing toujours en demi-longueur et pointe, à part si vraiment il est préconisé après une technique, après une coloration ou ce genre de choses, on peut aller jusque la racine une fois pour dire de revenir réparer un petit peu le cheveu jusqu'à la racine.
Qu'est-ce qu'on risque si on le mettait sur tout le cheveu ?
De rendre les cheveux gras.
Tout simplement,
oui.
Quand on se lave les cheveux, je reviens juste sur le lavage et sur le shampoing qu'on va acheter. Est-ce que le prix, c'est un gage de qualité pour le shampoing ? Parce qu'il y a des shampoings à tous les prix. On peut acheter chez son coiffeur, c'est un peu plus cher. Et même au supermarché, c'est un rayon qui donne le vertige.
C'est vrai.
Il y en a qui sont à 2 euros, ça peut monter jusqu'à 8. Enfin, comment ?
C'est vrai.
Est-ce que c'est un gage de qualité ?
Alors, je ne dirais pas que c'est un gage de qualité parce qu'on a des très bons produits qui ne sont pas chers. Mmh. Donc, aujourd'hui, on sait que de mettre le prix n'est pas forcément d'avoir le meilleur résultat. Moi, je conseille, en tout cas, quand on a un problème de cuir chevelu, parce que je parle bien de cuir chevelu, parce que c'est le cuir chevelu qui est important pour avoir un beau cheveu. Il y a vraiment une notion de, comme une plante, pour bien pousser, pour être jolie, elle a besoin d'avoir une terre fertile.
Bah oui.
Nous, notre cheveu a besoin d'avoir un cuir chevelu sain. Et donc c'est important de traiter le cuir chevelu et non le cheveu.
Et dites-moi, on les lave à l'eau chaude, à l'eau froide ? À l'eau tiède, c'est quoi la technique ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau chaude va ouvrir les écailles du cheveu, donc faire pénétrer les produits plus rapidement, et l'eau froide les refermer et rendre les cheveux plus brillants. Donc moi, je conseille.
Faut terminer par de l'eau froide.
Le rinçage à l'eau froide.
On aime mieux l'eau chaude tout le long, quand même. Ouais.
C'est pour ça que chez le coiffeur au bac, il vous dit je termine avec un léger
froid.
Il faut accepter quand il nous demande ça.
C'est bien de le faire au moins sur les demi-longueurs et pointes. Pas besoin d'aller en racine, mais au moins sur les demi-longueurs et pointes, c'est pas mal.
Et quand on nous propose un massage du cuir chevelu,
ça vous dites jamais non.
Moi, je dis jamais non, mais est-ce que ça sert à quelque chose à part le plaisir ?
Ça sert énormément le massage du cuir
chevelu. C'est utile et agréable, alors, génial.
C'est la stimulation de la microcirculation. Donc, du coup, on favorise la nutrition dans le cheveu. Et en plus de ça, on évite la chute, on évite plein
c'est
de choses.
Ce n'est pas juste pour fidéliser le client. C'est que vous nous faites
non,
du bien, mais c'est utile.
Tout
d'accord.
À fait.
Et parfois, on n'a pas toujours le temps de se laver les cheveux, justement. Et donc là, ça peut être un petit pchit de shampoing sec.
Ouais.
Qu'est-ce que vous pensez de ces produits-là ?
Alors, shampoing sec, c'est très bien. Par exemple, on en parlait tout à l'heure des femmes qui ont les cheveux gras trop rapidement. Pour pouvoir espacer ces shampoings, c'est pas mal. Donc c'est juste souvent c'est un peu d'argile, des
c'est comme de la poudre blanche là, qui va absorber.
Voilà, c'est une molécule absorbante qui va venir.
C'est pas toxique pour le cheveu à la longue si on faisait ça tous les jours, j'imagine.
Alors tous les jours, je dis pas que ça serait, mais bon, quelqu'un qui met un homme qui met du gel tous les cheveux dans ses cheveux,
c'est pas terrible non plus.
C'est pas terrible non plus quoi.
Ça peut permettre d'espacer les shampoings en tout cas.
Ça permet d'espacer les shampoings.
Ça peut permettre de tenir le troisième jour.
Tout à fait.
Le troisième jour qui est un peu dégueu.
Ça sent le vécu.
Ah bon, ouais, moi j'adore le troisième jour après un brushing, un petit shampoing sec.
Hein.
Et du coup, ça le remet bien. Vous avez remarqué ça ?
Mais
ça
on détourne un peu, nous, sur les plateaux shooting, on détourne un peu le shampoing sec comme un coiffant.
C'est vrai.
Puisqu'en
fait,
il va amener du volume, il va donner un galbe aux cheveux.
Parfois, le cheveu est plus beau après un bon shampoing sec qu'un shampoing tout court.
Je trouve que ça le ternit un peu, qu'en pensez-vous ?
Ça le ternit, ça c'est sûr. Puisque du coup, c'est très mat, alors qu'un cheveu, on aime quand il est brillant.
Ouais.
Donc automatiquement, on a l'impression qu'il est plus terne.
Alors, on n'a pas parlé des cheveux colorés, ça concerne beaucoup de monde, ou avec des mèches. Est-ce que ça demande plus de soins ces cheveux-là, parce qu'on voit des tas de shampoings et de soins pour cette indication. Est-ce que c'est vraiment utile ?
Alors c'est vraiment utile parce que effectivement on va agresser le cheveu, on va lui amener un produit chimique. Donc l'idée c'est quand même de pouvoir réparer soit avec des soins à la kératine, soit avec des soins adaptés pour les cheveux méchés et les cheveux colorés. Ça prolonge en tout cas la couleur.
Et dites-moi, la grande tendance là c'est la coloration végétale. Elle a quoi de différent par rapport aux colorations traditionnelles ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Alors elle a beaucoup de choses de différent puisqu'elle est accessible à tous, même aux femmes enceintes. Donc ça c'est quand même un gros point pour les femmes enceintes qui pendant 9 mois ne peuvent plus rien faire. Là ça fonctionne. Il y a des marques aussi qui ont sorti la coloration végétale compatible avec la coloration chimique. Et ça, c'est un exploit aujourd'hui, puisqu'avant, c'était pas compatible. Quelqu'un qui faisait de la végétale ne pouvait pas faire de la chimie, donc ne pouvait pas faire de mèche, par exemple, les cheveux brûlaient.
Mm-hmm.
Et donc, aujourd'hui, on a de la coloration végétale qui fonctionne bien. Ça a ses limites. Clairement, par rapport à la chimie, on n'a pas les mêmes résultats. On n'a pas un résultat instantané. C'est après quelques jours à être passé sous la coloration. Et par contre, oui, aujourd'hui, on arrive à couvrir les cheveux blancs. On est quand même plus dans des reflets chauds que des reflets froids, puisque bon, bah, avec le henné, automatiquement, on est plus dans un reflet chaud. Mais ça se développe bien. En tout cas, je pense qu'on va, vers quelque chose d'intéressant.
On a notre réalisateur Nicolas qui n'a pas compris ce que vous vouliez dire par reflet chaud. Peut-être qu'il y a d'autres
hommes. Bah, tout ce qui est les reflets chauds, c'est les reflets cuivrés, les reflets rouges. Voilà.
Et les reflets froids,
dorés,
ça va être plus vers le blond.
Plus les reflets cendrés. Tout
et
ce
ça,
qui
moi,
est,
par exemple, si je veux aller vers du blond sur des cheveux châtains foncés comme moi, c'est pas possible.
Alors, c'est pas possible puisqu'on n'éclaircit pas avec la coloration végétale, d'où les limites du végétal. Par contre, de pouvoir allier chimie et végétal, quelqu'un qui est brune, qui veut avoir des mèches blondes et recolorer en végétal, c'est possible. Mmh. On éclaircit avec de la chimie et on recolore avec du végétal.
Alors François Lally, on a une question pour vous sur Instagram de Sylvie Mayou. Elle nous demande, que pensez-vous des gummies favorisant la pousse et la beauté des cheveux? Ce sont des compléments alimentaires.
Alors moi, je pense que c'est bien. C'est comme d'où son nom l'indique, complément alimentaire. C'est un complément. C'est pas pour tout le monde parce qu'il faut bien se renseigner quand même au niveau des allergies, au niveau des intolérances. Souvent dedans, on a ce qu'on retrouve dans les shampoings, par exemple pour cheveux gras, on a une molécule qui est absorbante, qui va réguler un peu le sébum et qui aussi va permettre d'éviter la chute. Donc c'est bien en complément d'un shampoing, en complément d'un traitement, c'est pas mal.
Alors comme pour la peau, on voit des masques et des huiles pour cheveux, mais ça sert à quoi? C'est du marketing ou pas? Parce que Mélanie, juste avant l'émission, elle me disait qu'elle faisait jamais rien.
Jamais.
Elle a des cheveux nickel.
Elle a des cheveux magnifiques.
On n'a jamais fait de ma vie.
Alors que moi, je le fais tout le temps.
En fait, c'est une question de d'habitude. Quelqu'un qui va mettre une crème de jour tous les jours, le jour où il va pas la mettre sur sa peau va réagir parce qu'elle est habituée à avoir quelque chose. Quelqu'un qui ne l'a jamais fait, bah, il va avoir moins de demandes, le corps va moins demander. Par contre, effectivement, il y a des cheveux qui sont beaucoup plus fins, plus cassants et qui ont une nécessité plus importante à ce niveau-là.
Donc c'est pas obligatoire.
C'est
en tout cas, moi qui n'en ai jamais fait
que
des bons cheveux, il n'y a pas de raison de m'y mettre.
Il n'y a pas de raison
de
commencer.
Et des pellicules, Mélanie?
Ah, j'en ai pas.
Ah bon, on va quand même en parler.
Oui, c'est important, ça touche beaucoup de monde.
Oui, justement, c'est un souci assez fréquent. Ça touche plutôt les hommes ou les femmes?
Alors ça peut toucher tout le monde puisque c'est vraiment le stress. Enfin, c'est plein de facteurs qui peuvent rentrer en compte dans les pellicules. C'est une régénération de la peau qui est plus rapide que chez certaines personnes. C'est vraiment le stress.
Ah bon, je ne savais pas que le stress donnait des pellicules.
Le stress donne énormément de pellicules,
Tout à fait. On a également Anis sur Instagram qui demande, c'est un garçon, il demande si le fait d'avoir les cheveux fins fait finalement qu'on risque plus d'être à risque de calvitie.
Alors non, parce qu'il y a des gens qui ont les cheveux fins qui n'ont pas de calvitie. Mais par contre, effectivement, ce sont des cheveux qui sont plus sensibles et donc avec lesquels il faudra prendre un petit peu plus de précautions.
Excusez-moi, j'insiste, mais il paraît qu'il y a deux types de pellicules.
Oui.
Comment on fait pour les reconnaître?
Eh bien, donc, pellicules grasses, tout simplement, on les voit attachées aux cheveux. Elles sont présentes sur le cuir chevelu et sur les cheveux, alors que les pellicules sèches, elles sont souvent sur les épaules.
Franchement, on préfère les sèches, non, quand même, parce que les gras, c'est un côté un peu plus dégoûtant, non?
Disons
un
que peu je plaque, pense que quoi. Pour l'homme qui a la veste noire en costume et qui se retrouve avec toute la poudre blanche sur ses épaules, c'est pas génial. Non
ça marche bien, les antipelliculaires?
Alors, les antipelliculaires, ça marche très bien. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Par contre, il faut bien choisir pellicule grasse ou pellicule sèche.
D'accord. Et vous avez des recettes magiques, je sais pas, pour se débarrasser des pellicules?
Alors moi, honnêtement, je suis pas friand de se fabriquer ces petites choses soi-même ou quoi, ou se faire ces petites recettes quand on a un souci, parce que il y a des choses, il y a vraiment des laboratoires pharmaceutiques qui répondent à des problèmes et qui ont vraiment une étude là-dessus. Nous, je suis pas sûr que c'est avec notre œuf, notre citron et notre miel qu'on va faire quelque chose de bien.
Les recettes de grand-mère, non.
Non, vaut mieux axer quand même. Vaut mieux aller à la pharmacie, se prendre un petit renseignement et puis d'avoir un truc bien orienté. Aujourd'hui, on fait des très belles choses.
On a une question de Céline près d'Angoulême au 3921 qui nous demande. On dit qu'il ne faut jamais se coucher les cheveux mouillés. Pourquoi? C'est quoi les risques?
Eh oui, tout à fait. Les cheveux mouillés, en fait, le problème c'est qu'on va laisser les écailles du cheveu ouvertes et donc les cheveux avec les écailles ouvertes qui vont frotter toute la nuit contre l'oreiller, on va altérer la qualité du cheveu.
Alors Gwenaël Malo sur Facebook, il nous demande si les cheveux roux, ça va m'intéresser, demandent plus d'entretien ou pas?
Non.
C'est des cheveux normaux, ils n'ont rien de particulier.
C'est pas la couleur qui fait que.
Et pourquoi on est roux? Parce qu'on n'a pas de pigment quand même.
Si, c'est un pigment rouge plus important dans le cheveu, tout simplement.
Une autre question d'Isabelle sur Facebook, 53 ans. Elle dit, j'ai des cheveux presque tout blancs, sauf derrière un entre deux, en gros, c'est pas top, quoi. C'est mieux de colorer tout en blanc dans ces cas-là. Elle ne voulait plus faire de couleur. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller à Isabelle?
Bah disons que ça c'est un choix, c'est une histoire de goût. Effectivement, si ces cheveux plus foncés sont dérangeants dans la nuque, c'est les cheveux plus foncés dans la nuque,
oui, c'est ça, exactement.
J'ai compris. On peut éventuellement les décolorer, mais bon, ça serait abîmer les cheveux pour pas grand chose. Maintenant, c'est soit le naturel, soit effectivement on passe par la chimie pour avoir un beau blanc.
Parce que c'est très d'ailleurs à la mode, hein, ce beau blanc comme ça.
C'est très à la mode.
Ça demande beaucoup d'entretien d'ailleurs.
Ça demande beaucoup d'entretien. De toute façon, les cheveux blancs demandent de l'entretien pour ne pas jaunir.
On a l'impression que c'est juste au moins on est tranquille, on fait plus rien, mais non, en fait avoir de beaux cheveux blancs c'est du boulot.
Ça s'entretient, tout à fait.
On n'a pas parlé brossage justement. Est-ce que le brossage des cheveux c'est quelque chose d'important?
C'est très important.
Ah bon? vous brossez jamais les cheveux?
C'est très
jamais
important,
non plus.
On se dit
sérieux,
minimum.
Jamais.
Minimum
sauf quand je les
deux
démêle,
fois
quoi.
Par jour.
Ouais.
C'est, c'est bien de se brosser les cheveux deux fois par jour parce qu'en fait, on relisse l'écaille dans le sens du cheveu. Et en plus de ça, on se débarrasse des cheveux morts, donc pour laisser la place aux nouveaux cheveux.
Mais ça veut dire, vous vous levez, Mélanie, vous ne vous brossez pas les cheveux?
Non, jamais. Quand je les lave et je les démêle, c'est tout, mais après, je ne les brosse pas. Sinon.
Ah ouais? Et les dents?
Bah si, ça oui, quand même.
Europe 1, les meilleurs moments de bienfait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 dans Bienfait pour vous, nous sommes à présent dans notre séquence tendance. Dans un instant, notre expert beauté Benjamin Lévesque va nous indiquer les meilleurs produits, les meilleurs cosmétiques pour être beau et belle même à la salle de sport. Mais tout de suite, on va passer en cuisine avec Sophie Menu. Sophie Menu, vous allez nous parler maintenant d'un mets peu connu encore, même si on en entend parler de plus en plus ces dernières années, à savoir la poutargue. Alors, moi j'en ai déjà mangé dans des restaurants, mais pour rien vous cacher, j'en ai jamais cuisiné, enfin mis dans les assiettes, c'est chez moi en tout cas, et je suis certaine que vous allez m'aider à remédier à cette situation. On vous écoute, Sophie.
Tout à fait, Mélanie. La poutargue, ou là, elle a deux noms, hein. Poutargue ou boutargue, les deux se disent en France, c'est un produit qui intrigue, venu de la mer. Alors, on l'appelle parfois le caviar de la Méditerranée. Sa saveur puissante et sa rareté donnent forcément envie d'y goûter. Alors, je vous ai apporté une poutargue de haute compétition. Déjà, regardez comme c'est beau la boîte.
Magnifique, hein, c'est vrai. Alors,
on dirait
c'est...
une carotte.
Ouais, non, mais non. Non, mais non, elle a... Le designer a joué
c'est
en fait
classe,
sur une poutargue.
C'est trop beau.
Et c'est une jeune femme qui s'appelle Florence Châtelet qui a décidé de mettre en avant tous les petits producteurs de produits un peu rares.
Faites
comme
ça. Faites-nous passer ce coffret qu'on regarde un petit peu.
Je vais vous passer le coffret, puis je vais vous... Alors, elle nous a envoyé deux sortes de poutargues. Mais on va déjà commencer à parler de ça. Alors, mesdames, si je vous dis mulet, vous me répondez quoi?
Coupe. C'est pas un âne. Hein.
Moi,
c'est
je pensais à la coupe mulet. Moi,
oui,
savez,
la le coupe mulet.
Un truc entre l'âne et le cheval. C'est
oui.
Ça
oui, c'est ça aussi. Mais c'est aussi un poisson. Et ce poisson, c'est ce poisson qui m'intéresse pour vous parler de la poutargue. Parce que c'est les œufs de ce poisson très recherché avec lequel on élabore ce produit qui est devenu un produit de luxe, mais qui au départ était un produit très populaire. En arabe, boutarga signifie œuf de poisson salé et séché, c'est-à-dire conservé dans la saumure. C'est encore le cas. Alors en France, comme je vous l'ai dit, on l'appelle boutargue ou poutargue. En Italie, on l'appelle botarga. En espagnol, pareil, avec un T en moins. On la trouve principalement, ce poisson se trouve principalement sur le bassin méditerranéen, quelquefois aussi en Atlantique et en Mauritanie.
Alors, parlez-nous de la poutargue que vous nous avez apportée.
Alors, comme je vous le disais, Florence Châtelet, elle a eu envie de faire un produit le plus pur possible, loin des sirènes d'ailleurs du marketing. Et elle a remis en avant ce produit qui est très simple, hein, puisqu'on pêche le poisson. Et elle a fait ce qu'on appelle la slow maturation, c'est-à-dire une maturation très douce qui combine affinage, fumage et fermentation. Alors vous allez goûter. Alors,
oui.
Il y en a deux.
Alors,
et elles sont,
je décris un petit peu pour nos auditeurs. Oui. Ce sont comme des poches en fait, remplies d'œufs de poisson, des œufs de poisson qui sont de couleur orange. Vous avez peut-être déjà vu ça. Il y a des poissonniers qui en vendent aussi. Hein. Moi j'en ai.
Il y a des poissonniers. Je vous fais goûter aussi, Benjamin. Ouais. Vous faites passer.
J'avais jamais goûté, cette poutargue est un peu molle.
Alors oui, elle est molle parce qu'elle est slow maturée, elle est jeune. Je vous laisse faire passer à Mélanie peut-être. Et ça se mange en fait comme un sashimi. Ce n'est plus un condiment, mais c'est un ingrédient.
Donc là, vous nous avez mis des petites tartines de pain avec un petit peu de beurre et donc quelques petites tranches fines de poutargue ou de boutargue dessus.
Exactement,
hein, c'est ça,
c'est pour la deuxième qu'elle nous a gentiment envoyée. C'est à Martigues, en France en tout cas, hein, qu'on la prépare depuis plus de 5 siècles. On pêche les mulets avant que les femelles rejettent leurs œufs, quand elles sont bien pleines. Une fois pêchées, avec les mains, tout est artisanal. On prélève la poche très délicatement. On la rince, on la pose sur des cristaux de sel qui vont durcir cette pellicule qui entoure les œufs. On va la laisser sécher comme ça un petit peu. Et ensuite, on va la dévenir comme un foie gras.
Ah oui.
Et on laisse sécher encore sur des clayettes pour suspendre ensuite et continuer en fait le séchage.
C'est pas facile à dire, séchage.
Non.
Mais on peut la trouver où, cette moutarde, alors?
Alors, comme Mélanie disait, on la trouve maintenant plus facilement chez des poissonniers, dans des épiceries fines, dans des épiceries spécialisées sur les produits de la mer, dans les supermarchés et sur l'épicerie en ligne de Florence qui s'appelle DSA.
DSA,
ouais, D-A-E-H-E-S-A, donc on peut l'acheter en ligne comme ça. Alors parfois, elle est protégée d'une pellicule de cire.
Oui, c'est vrai.
Souvent, c'est celles qui viennent d'ailleurs pour mieux être transportées et être mieux conservées.
Mieux vaut privilégier le Made in France quand même, on est d'accord. Hein.
Carrément. On peut la trouver en poudre aussi. Alors on la saupoudre. Comme ça sur les plats, mais comme vous le disiez, Mélanie, Made in France, c'est quand même mieux.
Vous disiez le caviar de la mer, pourquoi c'est si cher?
Mais pourquoi parler d'argent? C'est vrai que c'est cher, parce que d'abord, son prix oscille, selon les années, entre 160 et 220 euros le kilo.
Waouh, c'est cher. Hein.
Donc c'est vrai que c'est cher, mais il faut des gros œufs pour faire de la bonne poutargue, donc difficile à trouver. Les mulets gris qui servent à faire cette poutargue sont de plus en plus rares. On les trouve en Espagne, autour de la mer Méditerranée, l'Atlantique, au Maroc, aux Canaries. Mais ce que je voudrais dire, c'est vrai que c'est cher, mais on l'utilise très peu, en fait.
Bah oui, j'ai également une poutargue toute fraîche et sans rien, sans aromatiser, pas du tout aromatisée dans mon frigo. Je vais en faire quoi, alors?
Vous pouvez, c'est très simple, soit apéro, vous sortez un petit blanc de Provence ou
C'est rare qu'on fasse l'apéro chez moi, c'est dommage.
Ça, il faut voir avec votre mari. Et vous les coupez en lamelles très fines et vous faites comme je vous ai proposé là, c'est-à-dire sur du pain, sur du beurre. Un dîner de dernière minute, vous faites cuire des spaghettis al dente, vous rajoutez un peu d'huile d'olive, ça sent déjà les vacances et l'été. Vous rajoutez quelques lamelles de poutarde.
Moi, je pense que ça va finir comme ça chez
ou
moi.
Ou vous la râpez quand elle est sèche. Sur des œufs brouillés, c'est super bon, un peu comme on met de la truffe d'ailleurs sur les œufs brouillés. Là, mettez de la poutargue. Et surtout, il ne faut pas la faire cuire, en fait, parce que ce qui est bon, c'est sa naturalité.
Ça ne se cuisine pas, ça se met sur quelque chose.
C'est un produit d'exception tout seul. Donc, vous faites comment à Marseille, Julia, quand vous la dégustez?
J'y vais ce week-end, vous savez, à Marseille, et c'est les gens qui... Je vais dans
qui
un
le
restaurant.
Font pour elle.
Sur Europe 1, le meilleur de bienfaits pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
On va sortir le short, je crois, les haltères, les baskets. Benjamin, on va faire du sport, c'est ça?
Eh oui, effectivement, puisqu'il y a de plus en plus de marques de cosmétiques qui mettent au point des produits de beauté spécialement conçus pour les sportifs et les sportives. Alors, pour le maquillage, par exemple, vous avez la marque MAC qui a longtemps maquillé les artistes du Cirque du Soleil, qui ont développé plusieurs produits que l'on peut appliquer avant l'entraînement. Alors, vous avez bien sûr les rouges à lèvres longue tenue, mais vous avez encore mieux avec, regardez, cette laque à lèvres. Alors, c'est une sorte de rouge à lèvres liquide et qui va en fait sécher et qui va tenir beaucoup plus longtemps, jusqu'à 12 heures.
C'est du plâtre pour la bouche.
Non, j'en ai déjà porté, c'est très efficace.
Ça va résister à la chaleur, ça va résister à la transpiration. On peut même manger avec, ça ne part pas. Ouais. Seul bémol à l'effrottement, si on s'essuie la bouche avec une serviette dessus, bien forcément, on va abîmer le rouge à lèvres.
Bon, Benjamin, moi, vous savez, j'adore la piscine. C'est ma passion, la piscine. On peut quand même se maquiller pour aller dans l'eau.
Et oui, effectivement, les mannequins que vous êtes, les filles, vont pouvoir aller nager avec des yeux de biche grâce à ce mascara totalement waterproof. Il coûte 22 euros et qui va résister à l'eau de la piscine, comme l'explique Tom Sapin, qui est maquilleur professionnel pour MAC Cosmétiques.
C'est un mascara qui est aqua-résistant, mais qui dépend de la température de l'eau. Par exemple, on va aller dans une piscine d'eau froide, le mascara ne va pas couler. Donc par exemple, moi je l'utilise aussi sur mes mariés qui vont pleurer le jour de leur mariage parce que je sais qu'à l'eau froide, donc l'eau des larmes, etc., il ne coulera pas. En revanche, c'est un mascara qui, après cette séance de piscine ou ce mariage par exemple, va s'éliminer à partir d'une certaine température de l'eau. Donc par exemple, si on prend une douche chaude, là le mascara va s'éliminer complètement. C'est pour ça qu'il est adoré par les sportifs.
Et vous avez même l'ombre à paupières, c'est un fard à paupières liquide et puis un fond de teint qui résiste à l'eau. Et donc en fait, la transpiration va perler à travers le maquillage et ne l'emportera pas avec.
Ça coûte combien? Parce que si c'est aussi technique, moi j'ai l'impression que ça va être très très cher.
Alors le fard à paupières, il est à 24 euros et le fond de teint, 39 euros.
C'est correct. Il y a aussi d'autres cosmétiques, des soins à appliquer sur la peau pour faire de meilleures séances de sport. Qu'est-ce qu'on peut mettre justement avant l'entraînement?
Et oui, c'est bien connu, les filles, avant de faire du sport, qu'est-ce qu'on fait?
On se maquille.
Non.
On s'échauffe.
On s'échauffe. Donc pour bien préparer son corps avant le sport, il y a des marques comme M+, qui a vu le jour l'an dernier et qui fabrique des produits pour les sportifs exclusivement. Alors ce sont des petits emballages étanches, donc pratiques à glisser dans le sac de sport. Et vous avez par exemple ce baume chauffant. En fait, il suffit donc de l'appliquer sur le muscle que l'on va utiliser. Donc si je décide de faire les haltères, je vais l'appliquer.
Il est en train de s'appliquer sur le biceps.
Le bras, ouais. Si vous faites un footing, Sophie, vous le mettez sur
vos jambes. Ça sent comment, Sophie? Me dites pas que ça sent la poutargue quand même.
Ça sent bon.
Ça sent bon. Ça sent
bon. Ça sent un peu les produits arnica.
Un peu camphré.
Il suffit de bien masser, de malaxer. Et donc ça va en fait chauffer le muscle. Il y a même du gingembre dedans, ce qui fait que ça va tonifier.
Ça nous excite un peu.
Voilà, exactement. Alors je sais pas ici qui fait de la course à pied ou fait son sport.
Cécile Couvreur, je sais. Cécile. Et Sophie Menu.
Cécile et Sophie. Alors avec le froid, j'imagine que c'est un enfer en ce moment pour courir. Alors pour éviter de se geler les et ben vous avez la marque Aquiline qui a sorti une gamme de produits chauffants. Donc là, vous avez pour les mains, les pieds, le visage. Et en fait, ils sont à base d'huile essentielle de piment. Donc ça va agir sur...
Ça va chauffer dans les chaussettes. Dans la
vie, voilà. Ça va courir beaucoup plus.
Exactement. Ça va agir sur les thermorécepteurs de la peau. Donc si vous frottez bien, qui veut essayer? Tiens, Sophie, je vous en mets un petit peu sur la main.
Je
donc,
suis pas
si
sûre
vous...
de rester en plateau. Alors.
Si vous frottez bien ce gel sur la peau, et ben ça fait comme si vous mettiez du piment sur la langue.
C'est drôle.
Ça va pas piquer, mais ça va chauffer.
Et après le sport, qu'est-ce qu'on peut mettre? Je crois que vous avez apporté une huile pour le corps.
Oui, c'est une huile du tigre de la marque La Canopée qui est inspirée du baume du tigre.
Oui,
alors il y a dedans trois ingrédients très intéressants après le sport. Vous avez le camphre, donc les propriétés qui soulageraient les articulations. Vous avez
attention l'ouvrant, Sophie, ça va vous sauter la figure.
Du menthol qui va apporter une grande fraîcheur et qui aide à la circulation sanguine. Et puis de l'huile essentielle d'eucalyptus qui va apaiser le muscle. Et donc on va l'utiliser, cette huile, en massage après le sport. Et le fait de masser un muscle après une séance de sport, eh bien, ça apporte un effet bien-être, comme l'explique le kinésithérapeute Nicolas Tikhomirov, alias Monsieur Clavicule, sur les réseaux sociaux.
Quand on masse, on va augmenter le flux sanguin, la circulation sanguine cutanée. Et ensuite, on a un effet qui est aussi neurologique au niveau des réflexes en diminuant l'excitabilité neuromusculaire dans le muscle. Ça a pour conséquence de diminuer les douleurs musculaires. Quand on a fait du sport, on a souvent mal, on a des tensions. Donc, il ne faut pas se priver de quelque chose qui pourrait nous faire du bien.
Bon, mais là, on est bien plein de cosmétiques,
vous
bien massés.
Hein.
Maintenant, il n'y a plus qu'à aller faire du sport quand
c'est
même.
Le plus compliqué.
Eh bien voilà, bien fait pour vous, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bien entendu demain dès 11h pour plein d'autres bons moments.
Et oui, encore des bienfaits demain dès 11h. En attendant, on va laisser la place à Europe Midi avec Raphaël Delvolvé. Bonjour Raphaël, c'est quoi le programme?
Bonjour Mélanie. Bien voilà, les grandes manœuvres ont commencé en vue des législatives. Ça bouge à gauche avec cet accord conclu hier soir tard entre la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts. Le PC, le Parti Communiste, et le PS, le Parti Socialiste, pourrait suivre, rejoindre cette nouvelle union populaire dans la journée, voire dans la soirée. Cela donne-t-il des idées à droite? Comment réagit la majorité présidentielle? Nos invités, Xavier Iacobelli de La République En Marche et Julien Odoul du Rassemblement National. Et puis vous, auditeurs, vous pouvez réagir. Vous avez forcément un avis à nous donner. Appelez-nous au 39 21. A tout de suite sur Europe.
Merci beaucoup Raphaël. A tout de suite.